alors que la pandémie est repartie elle aussi aux États-Unis. Du côté des entreprises à Paris, cette prudence des marchés s'est traduite par un retour vers les valeurs défensives, dont les services aux collectivités. Veolia en tête du CAC 40 s'est repris de 3,7%, tandis qu'Engie gagnait 1,7%. Délaissé hier, L'Oréal s'est ressaisi de 2,9%. Grande gagnante de ces derniers jours, les pétrolières ont subi des dégagements, à l'inverse. Total a cédé 1% et Technip FMC 6,8%. C'était Cécile Locose d'Investir pour RFI.
Merci beaucoup et je vous rappelle l'information principale de ce journal, la mort de la légende argentine du football.
Radio G. 101.5 FM.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'écouter Radio G et merci d'écouter L'Oreille Curieuse. Bienvenue à l'écoute de votre quotidienne qui déniche les infos locales, culturelles, les découvertes et autres curiosités. Tout ça du lundi au jeudi. Pas de débriefing des annonces gouvernementales ni de nécrologie de Diego Maradona. Ce soir, nous avons travaillé à plusieurs mains et plusieurs cerveaux pour vous proposer une joyeuse émission tout en chronique. La première d'entre elles est inédite, vous découvrirez des tubes et des essais, où Ondine nous parlera de science. Il y aura également Céleste et son amour du cinéma qui aborderont ensemble la composition de musique de film. Et enfin, nous entendrons le psy de cette émission, Nicolas, pour une nouvelle édition du Prêt-à-penser. Vous n'avez qu'à rester jusqu'à la fin de l'émission. Je pense qu'on va déborder un peu de 18h50 pour entendre le Prêt-à-penser. Derrière le micro, seule depuis le studio de Radio G, c'est Anne-Lie. Et je remercie Ondine, Céleste et Nicolas, grâce à qui cette émission peut exister. Et je saute sur le dicton d'aujourd'hui qui est « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». N'hésitez pas à nous envoyer des messages si ça vous fait réagir. Pendant ce temps-là, on va débuter l'émission en musique et le titre que j'ai choisi ce soir est Bluff de Bonnie Banane.
Laisse-moi te consoler, laisse-moi te rassurer, laisse-moi t'encourager, c'est bon pour la santé. Tant que t'es sur ta lancée, tu peux pas t'arrêter si ce n'est de penser. On doit tous perdre pour gagner, yaka yaka pioche si tu peux plus jouer.
Bluff.
Bad bunny, bad bunny, bad bunny, bad bunny, bad bunny, bad bunny, mais faut rien se refuser. Je vais tout assimiler.
pas plusieurs possibilités. Effacer, recommencer, tomber, se relever. Tant que t'es là dans la foulée, tu peux pas t'arrêter, surtout pas de danser. Bye bye.
Tout de suite dans l'oreille curieuse, j'ai le plaisir de vous proposer une toute nouvelle chronique, des tubes et des essais. Une chronique réalisée par Ondine qui a répondu à mon appel à l'aide et à nouvelle chronique. Et on va parler de science.
Des tubes et des essais. Bonjour à toutes et tous et bonjour Andy. Je m'appelle Ondine, j'ai 10 ans et j'adore la science. Si vous êtes un ou une chimiste en herbe comme moi, alors cette chronique est faite pour vous. Au programme, explosion de soda et découverte d'une scientifique aux deux prix Nobel. Allez, c'est parti, on commence. Pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons faire une expérience explosive. Pour la réaliser, il te faut une bouteille de soda ou d'eau pétillante, un bonbon Mentos, un espace dégagé ou un jardin. Pose la bouteille de soda ou d'eau pétillante sur un espace dégagé et nettoyable. Puis enlève le bouchon de la bouteille et mets dedans une ou plusieurs pastilles de Mentos. Écarte-toi bien et regarde. Une explosion se produit. Mais comment a-t-elle pu se créer à ton avis ?
Moi je pense que c'est un peu des substances qui sont dans le Mentos qui réagissent à d'autres substances qui sont dans le Coca. Et du coup, ça a créé une explosion.
Alors moi, ça me rappelle les podiums après des épreuves sportives où le champion secoue une bouteille de champagne et ça fait des bulles partout. Alors, mon explication, c'est que le Mentos, c'est pas un Mentos, c'est un sportif qui est déguisé et qui secoue la bouteille de l'intérieur.
Et ben moi, ça me fait penser à un volcan, mais pour les fourmis, comme les fourmis, c'est tout petit.
Maintenant, voici l'explication scientifique. Dans le soda ou l'eau pétillante, les bulles sont constituées d'un gaz, le dioxyde de carbone, qui est dissous dans la boisson. Quand tu introduis le Mentos dans la bouteille de soda ou d'eau pétillante, tu libères le gaz brusquement et c'est en s'échappant que se produit une explosion.
Les petits conseils pour une expérience encore plus exceptionnelle.
Si tu veux une plus grosse explosion, prends une bouteille de Coca Light. Perce un trou dans le bouchon. Une fois le manteau s'introduit, rebouche très rapidement la bouteille avant de t'écarter. Maintenant, j'aimerais vous parler de Marie Curie, cette incroyable chercheuse du début du XXe siècle, qui a reçu non pas un, mais deux prix Nobel. L'un pour ses travaux en physique avec son mari Pierre, et l'autre pour ses découvertes en chimie. Tu sais peut-être que Marie Curie a découvert le radium et le polonium, mais connais-tu vraiment sa vie ?
Si oui, tu prendras plaisir à la réécouter.
Sinon, tu la découvriras. Marie Curie est une Française d'origine polonaise qui est née en 1867 à Varsovie, en Pologne, sous le nom de Maria Szlodowska. Elle était la cadette d'une famille de 5 enfants et elle était très, très, très intelligente. À 16 ans, elle ne peut pas étudier à l'université car la Russie, qui gouvernait alors la Pologne, n'autorise pas les femmes à étudier. Un jour, pourtant, elle reçoit une lettre étrange.
Depuis un lieu secret. Parce que les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes, j'ai décidé de fonder une université clandestine. Nous nous retrouverons 2 heures par semaine pour profiter de l'enseignement des meilleurs scientifiques, penseurs et historiens. Pour celles qui ne peuvent pas payer, ce sera gratuit. Cela doit rester un secret. Veuillez détruire cette lettre pour qu'elle ne tombe pas aux mains de la police russe.
Après ses études, Maria devient servante pour financer le départ de Bronia, sa sœur, en France. Marie la rejoindra quelque temps plus tard pour poursuivre ses études. Elle rencontre, en 1895, le chercheur Pierre Curie. Ils se marient et ensemble, ils auront 2 filles, Irène et Ève. Après bien des recherches et des expériences, ils découvriront le radium et le polonium, 2 éléments radioactifs. Ils recevront le prix Nobel de physique en 1903. Pierre meurt 3 ans plus tard, renversé par une voiture. En 1911, Marie se voit décerner un autre prix Nobel, en chimie cette fois. C'est la première personne au monde à recevoir 2 prix Nobel. Quelle vie incroyable, n'est-ce pas ? Marie Curie ne s'arrête pourtant pas là. Pendant la Première Guerre mondiale, elle va créer avec sa fille Irène les Petites Curies, des voitures équipées d'un matériel de rayon X. Le concept est de faire des radios sur place pour gagner du temps et sauver les soldats blessés. En 1934, Marie meurt suite à une trop grosse exposition à des produits radioactifs. C'est la première femme à être enterrée au Panthéon.
Le sais-tu ?
Le corps de Marie Curie était encore radioactif quand on l'a enterrée. Elle a donc un cercueil en plomb pour protéger des radiations. C'est la fin de cette chronique scientifique animée par Ondine. Merci à Florent, Margot, Mao et Solène pour leur participation.
Et à la prochaine, si vous respirez de l'oxygène.
Merci beaucoup Ondine, on te retrouve avec des tubes et des essais quand tu veux dans l'oreille curieuse. Et moi je profite de cette chronique scientifique pour vous parler d'un événement qui aura lieu ce vendredi. Il s'agit de la Nuit européenne des chercheurs et chercheuses. L'événement aura lieu en ligne de 18h à minuit et simultanément depuis plusieurs villes de France. Le principe de cette Nuit européenne des chercheurs et chercheuses, c'est tout simplement de découvrir l'actualité des sciences et de la recherche. Les équipes des laboratoires des universités d'Angers, de l'UCO, de l'ESA ou de l'ESEO vous proposent d'aborder des thèmes aussi variés que l'intelligence artificielle, le deep learning ou la pollution des océans. Tout ça au travers d'animations proposées en direct. Vous pourrez explorer des sujets, tenter de résoudre des énigmes, découvrir des thèses en 180 secondes et bien d'autres choses que je ne prends pas le temps de résumer ici. Si votre curiosité est piquée, je vous invite à aller sur le site www.nedc-angers.fr. NEDC comme Nuit Européenne des Chercheurs. Vous y trouverez le programme complet et pourrez vous inscrire aux animations qui vous intéressent. Car oui, il y a une partie des animations qui sont sur inscription. La Nuit Européenne des Chercheurs et Chercheuses, c'est un événement 100% en ligne. Donc ce vendredi, on sera le 27 novembre de 18h à minuit. Et à Angers, c'est organisé par Terre des Sciences en partenariat avec l'Université d'Angers et la Maison de l'Europe. Maintenant, nous allons parler de cinéma dans l'oreille curieuse avec la chronique de Céleste, une chronique que vous retrouverez désormais le mercredi et qui est consacrée ce soir aux musiques de films.
Un film est comme une énorme horloge. Elle ne tournera que si tous les petits engrenages peuvent s'imbriquer. Les meilleurs ont des engrenages à quartz, conçus pour durer. Et si on personnifiait chaque engrenage ? Admettons que les plus importants soient le ou la réalisatrice et le ou la scénariste. Leurs mouvements entraînent ceux des producteurs ou productrices qui mettent en marche le reste de la machine. Puis suivent les acteurs, actrices, les décors, les costumes, la direction de la photographie, les effets spéciaux. Et la musique dans tout ça. J'ai conscience qu'elle ne semble pas essentielle. Après tout, dans ma chronique sur Portrait de la jeune fille en feu, j'expliquais en quoi la quasi-absence de musique est utile. Mais justement, Ce parti pris inscrit quand même la musique dans le film, car le fait de ne pas en mettre est un choix qui véhicule un message ou une émotion. Et c'est là le but de la musique de film. Par exemple, dans le film Alice, du réalisateur tchèque surréaliste Jan Švankmajer, l'absence de musique est expliquée par le fait que le personnage principal, à savoir Alice, est dans un monde onirique, rêvé. Et quand on rêve, on n'entend pas de musique tout du long, comme lorsque nous sommes éveillés. L'important au cinéma est avant tout de savoir quoi faire de sa musique. Mais alors, comment se construit une bonne musique de film? Et pourquoi est-ce si important d'avoir une musique réfléchie? Bonjour à tous, je suis Céleste, et aujourd'hui on va parler de l'architecture d'une musique de film. Commençons d'abord avec un peu d'histoire. Au commencement était le film muet, souvent court. Un certain Charles-Émile Reynaud invente un procédé permettant de projeter des figures animées sur une toile. Nous sommes alors à la fin des années 1890, et oui, c'est le tout début des dessins animés. Il charge un homme nommé Gaston Paulin d'écrire une partition pour chacune de ces petites animations. Elles étaient ensuite jouées en direct sur un piano, par le compositeur en personne, lui permettant d'improviser de temps en temps. On a là les prémices de la musique de film à la fin du 19e siècle. Quelques années plus tard, entre 1902 et 1917, la réalisatrice française Alès Guy, encore une fois une pionnière, tente une expérience. Celle de coupler le son avec l'image. Bien que ce n'était que pas vraiment de la musique à proprement parler, c'était le début de l'accompagnement sonore qui a permis les avancées techniques qui ont suivi. Ça fonctionnait grâce à un procédé qui démarrait un phonographe en même temps que la pellicule était diffusée. Malheureusement, ce n'était pas sans défaut, et il arrivait souvent que tout soit décalé. En 1908, le compositeur Camille Saint-Saëns compose la musique du film muet « L'assassinat du duc de Guise ». Il s'agit de la première musique commandée à un compositeur de renom. Et c'est pour ça que c'est l'une de ses compositions qui a ouvert cette chronique. 7 ans plus tard sort le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma, « Naissance d'une nation ». Un film qui a plus de l'intérêt en tant que révolution filmique et technique, plutôt que pour son propos raciste et pro-Ku Klux Klan. Et c'est le compositeur Joseph Carl Breil qui a l'honneur de composer la musique de film, qui dure quand même près de 3 heures. La suite, vous la connaissez, la musique a peu à peu arrêté d'être jouée en direct pour rejoindre des bandes de cire, puis le son était enregistré directement sur la pellicule en un signal sinueux appelé sinusoïde, qui était ensuite lu par un projecteur relié à des haut-parleurs. Malheureusement, plus le film était joué, plus la pellicule s'usait, et plus le son et la musique se dégradaient. On est là avant les années 30. Puis, les procédés ont continué à évoluer, de plus en plus sophistiqués, jusqu'à atteindre ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, me direz-vous, maintenant qu'on a parlé technique, dis-nous comment fait-on une bonne, et j'utilise les guillemets, musique de film? Eh bien, c'est comme tout travail, il faut l'organiser. Parce que c'est bien sympa d'avoir une musique quelconque pour accompagner l'action, mais si elle ne raconte rien, ça ne va intéresser personne. Car oui, la musique doit raconter une histoire, tout comme le scénario, c'est le propre du cinéma. Et pour cela, les compositeurs vont s'inspirer des plus grands. Car bien que la musique de film date du début du 19e, la musique tout court est bien plus ancienne, et on l'utilisait déjà pour raconter des histoires. Dans l'opéra, par exemple, chaque instrument, chaque partie d'orchestre était utilisée à des fins utiles. Prenons l'Anneau du Nibelung, un opéra de Richard Wagner qui dure environ 16 heures. Cette musique est une pionnière dans l'utilisation des leitmotivs. Un leitmotiv, qu'est-ce que c'est? C'est un bout musical, qu'on appelle une phrase, qui sert à caractériser un personnage, un objet ou une idée. Par exemple... Ce thème, assez connu, renvoie aux Valkyries de l'opéra de Wagner. Les Valkyries, en quelques mots, ce sont des divinités mineures, grandes guerrières au service d'Odin, dans la mythologie nordique. Ça veut dire qu'à chaque fois que les Valkyries sont importantes dans l'histoire, le thème est entendu. Je vais prendre un autre exemple, bien plus contemporain. Ce thème, tiré de Star Wars qui a marqué l'histoire du cinéma, caractérise le côté obscur. Ici, il est très martial, très militaire. On l'entend grâce aux percussions très marquées et très strictes. Il est utilisé pour la première fois dans l'épisode 5, durant lequel l'Empire Galactique, donc les méchants, sont au summum de leur puissance, d'où le côté presque triomphant de la musique. Ce thème va revenir plusieurs fois dans la saga, notamment dans les films 1, 2 et 3 qui sont sortis après, où la numérotation des Star Wars est un peu bizarre, racontant la naissance de l'Empire et de son grand méchant Dark Vador. Dans ses compositions, John Williams, le compositeur, va utiliser des variations de son thème pour signifier aux spectateurs avertis que l'on a affaire au côté obscur. Par exemple, dans l'épisode 1, où l'on suit un Dark Vador enfant, donc qui n'est pas encore le visage de l'Empire Galactique, le thème composé par John Williams est enfantin, avec l'utilisation de flûtes, cordes aiguës pour la pureté de l'enfance. Mais à la fin de ce thème juvénile, on entend une variation beaucoup plus lente du thème de l'Empire, mais tout aussi grave qui contraste avec le reste du thème d'Anakin, donc Dark Vador enfant. Et c'est grâce à ce principe de leitmotiv que la musique du film fonctionne efficacement. Ça et l'utilisation d'instruments particuliers ou de notes pour caractériser des choses évidentes. Les notes aiguës et lentes jouées par des bois, flûte, hautbois et clarinette, par exemple, peuvent représenter la candeur, l'innocence, la pureté, encore une fois, l'enfance. Les notes graves sont là pour les événements et personnages plus obscurs. Les cuivres, comme les trompettes, tuba, accompagnent le grandiose et le spectaculaire. L'un des exemples les plus connus est Empire et le loup de Prokofiev, où chaque instrument symbolise un personnage. Le hautbois pour le canard, la flûte traversière pour l'oiseau, les corps graves pour le loup, etc. Une prochaine fois, je vous ferai une chronique spéciale avec plein d'exemples à décortiquer car je veux passer du temps là-dessus et passer un peu de musique. Aujourd'hui, on continue avec un tout petit peu de théorie en revenant à notre question de base. Pourquoi est-ce si important d'avoir une musique réfléchie, structurée dans un film ? Eh bien, la musique est un vecteur d'émotion. Elle permet d'enrober l'action qui nous est montrée dans un joli papier cadeau. Aussi, si la scène est triste, la musique prendra des accents mineurs et aura un ton triste pour accentuer le dramatique de la scène. A l'inverse, si c'est une scène joyeuse et triomphante, la musique fera de même pour nous donner des émotions supplémentaires, ou du moins les accentuer. Celle-ci pourra aussi prendre de l'avant sur l'action, grâce encore une fois au thème, qui, une fois couplé, peut nous faire ressentir le pire, comme le fait d'ajouter le thème sombre dans l'Empire dans une musique enfantine et joyeuse. Et c'est pour ça que l'utilisation de leitmotiv est importante. Elle permet de développer l'histoire grâce à la musique, comme j'ai évoqué avec l'exemple de Star Wars, le thème impérial qui évolue en fonction des situations. De mener et développer ce thème sur plusieurs films, et donc de développer les émotions du spectateur. C'est d'ailleurs ce que je reproche à certains films actuels, notamment les films Marvel qui sont presque dépourvus de leitmotiv, à part le thème des Avengers qui est le seul à rester tout au long de la grande saga. Ne pas avoir ces thèmes qui caractérisent les personnages, les objets ou même les lieux, c'est risquer de perdre le spectateur et de ne pas lui délivrer suffisamment d'émotions. Structurer sa musique, c'est structurer son récit. Et c'est comme ça que naissent les grands films, ou du moins les grandes compositions. C'est tout pour moi, enfin du moins pour cette fois. Je garde encore quelques trucs dans ma manche pour une prochaine chronique, car je n'ai pas envie de tout vous dévoiler maintenant, ça ferait une chronique de 3 quarts d'heure, et c'est un peu long 3 quarts d'heure. Je vous laisse sur une composition de Michael Giacchino, je n'allais tout de même pas parler de musique sans le placer. Il s'agit de Nine to Survival Job, issu du film Jurassic World, dont je n'aime que la bande originale, ça arrive. Dans cette composition, il y a 3 thèmes, je compte sur vous pour les remarquer. Pour vous aider, il y a d'abord le thème de la famille survivante, musique relativement douce et calme, avec des cordes qui s'enchaînent, pour symboliser le côté soudé de la famille, un piano pour la partie calme après le combat, et quelques instruments de l'orchestre pour faire le lien entre les deux. Ce thème enchaîne sur celui du film, avec le reste de l'orchestre qui se « réveille » entre guillemets, avec des cuivres pour la grandeur des dinosaures. Et le tout termine sur 3 notes du thème de Jurassic Park, donc les films originaux, composés par John Williams, pour le côté héritage de l'œuvre. J'espère que cette chronique vous a plu. Voyez des films, intéressez-vous à leur musique et à leurs thèmes. Portez-vous bien. Salut!
Merci beaucoup Céleste. Je me sens intimidée de reprendre la parole après un tel morceau. On te retrouve la semaine prochaine avec un futur sujet cinéma, toujours le mercredi. Moi, d'entendre parler de ces instruments qui incarnent des personnages, ça m'a fait penser à un grand classique qu'on a facilement en tête. Mais quand même, il est toujours agréable. C'est Pierre et le loup de Prokofiev avec un instrument. Un animal, un personnage. Si vous avez envie de redécouvrir ça, je vous le glisse à l'oreille. Vous êtes sur les ondes de Radio G, à l'écoute de son oreille curieuse, et on va retrouver un autre de nos rendez-vous du mercredi, le prêt-à-penser, qui est proposé par Nicolas.
Quel sentiment tu ressens? J'aimerais faire une introspection, quoi. Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs de l'Oreille Curieuse sur Radio G. C'est en effet l'heure d'un nouveau prêt-à-penser, la chronique psy en toute simplicité. Et ce soir, je vais répondre à la sollicitation de Frédéric, que je remercie au passage, qui m'a contacté sur la messagerie privée de ma page Facebook et m'a invité à réagir en tant que psychologue, bien sûr, sur l'arrestation des 4 enfants à Albertville au début de ce mois de novembre. Alors rappelons les faits. Suite à l'effroyable assassinat dont tout le monde a entendu parler de Samuel Paty par un terroriste, Samuel Paty, cet enseignant qui avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves, eh bien la rentrée qui a suivi les vacances de la Toussaint a débuté dans toutes les écoles de France par un temps d'hommage et de discussion dans la classe à propos de ce fait divers et de la liberté d'expression. Dans une école d'Albertville, 4 enfants de CM2 âgés de 10 ans auraient tenu des propos problématiques jugés suffisamment inquiétants par l'enseignant pour que celui-ci en informe son directeur, lequel en a informé le recteur d'académie. Quelques jours plus tard, le professeur trouve dans sa boîte aux lettres un mot sur lequel est écrit « T'es mort » avec le « T » en lettres capitales. Il décide de porter plainte après en avoir informé sa hiérarchie, dont l'académie, qui fait parvenir au parquet le cas des propos initiaux des 4 enfants de 10 ans. En conséquence, une intervention policière est alors diligentée et les enfants sont arrêtés à leur domicile tôt le matin par des brigades d'intervention cagoulées et armées et les domiciles sont perquisitionnés. Les enfants resteront plus de 10 heures en rétention, seront interrogés avant que tous les soupçons de radicalisation des familles soient écartés et que les enfants et leurs familles soient aussi mis hors de cause concernant le mot dans la boîte aux lettres de l'enseignant. Alors bien évidemment, cette histoire n'est pas sans poser de multiples questions. Mais pour ce prêt-à-penser, j'en choisirai deux, qui me semblent concerner ma qualité de psychologue d'une part, mais aussi avoir été, je pense, à l'origine du contact par Frédéric. La première question, bien sûr, c'est s'il est avéré que les enfants n'évoluent pas dans un environnement radicalisé, on le sait depuis l'enquête, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu tenir les propos ayant choqué leur enseignant lors de ce temps d'échange en classe ? De ces propos, on ne sait pas grand-chose. Il faut dire que, d'ailleurs, assez étonnamment, peu sont les journalistes qui ont fait un réel travail d'investigation sur cet événement. Cependant, on trouve ici et là des propos rapportés par la famille franco-turque d'une fillette faisant partie de ses 4 enfants. Selon elle, les enfants auraient dit à l'enseignant qu'il était interdit de caricaturer le prophète et que Samuel Paty avait eu tort de montrer les caricatures. Il est également précisé qu'à la question de l'enseignant « Est-ce que moi je vais me faire tuer si je vous montre aussi les caricatures ?» les enfants auraient répondu « Oui, mais pas par nous », aurait-il précisé, « car nous, on t'aime bien. » Ces propos ont été interprétés par le gouvernement du point de vue de la lutte contre le terrorisme comme, je cite, « des signaux faibles de radicalisation ». Alors certes, ça c'est l'interprétation du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Mais comment interpréter ces propos du point de vue de l'enfance ? En tant que psychologue, imaginer de tels propos dans la bouche d'enfants de 10 ans, cela m'évoque immédiatement le manque de discernement, de proportionnalité dont les enfants de cet âge-là peuvent faire preuve en situation d'information incomplète, c'est-à-dire quand ils n'ont pas accès à tous les éléments d'analyse d'une situation, soit parce qu'on ne leur donne pas accès, ou alors parce que leur capacité, due à leur âge, ne leur en donne pas accès. Il faut en effet admettre que des notions abstraites et hautement symboliques, comme la liberté d'expression, la laïcité, le blasphème, ne sont généralement pas encore suffisamment maîtrisés à cet âge-là. Quand ils s'expriment sur des notions comme celle-là, les enfants de primaire n'en mesurent pas la portée et font parfois des raccourcis. Raccourcis qui d'ailleurs, dans un grand nombre de cas, peuvent s'avérer très drôles et amusants. Mais parfois, comme celui-ci, beaucoup moins. Quand des adultes donnent la parole à des enfants sur des sujets aussi sensibles, ils doivent s'attendre à les entendre dire des bêtises. Des bêtises qui sont, en quelque sorte, des points de départ à partir desquels la guidance de la pensée aboutie de l'adulte est censée amener l'enfant vers un point de vue plus large, plus nourri, donc plus nuancé. Mais il n'est pas non plus impossible que ces propos aient été également enclins à une certaine provocation, à une volonté de s'opposer à quelque chose d'établi, ce qui ne serait pas étonnant, tant c'est également un comportement propre à cette période de l'enfance. Ces attitudes d'opposition au discours référence d'autorité sont, pour faire très vite, des manières pour l'enfant, souvent maladroites, d'affirmer son identité, sa singularité, en se décalant, en se différenciant du discours établi. Et en parlant d'identité, je pense qu'il ne faut pas exclure non plus une hypothèse liée à la thématique spécifique de cet hommage à Samuel Paty. Cette hypothèse, c'est que ces enfants se soient retrouvés en situation de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est une problématique à laquelle sont soumis nombre d'enfants durant leur processus de construction identitaire. Ce conflit de loyauté, c'est quand un enfant se retrouve coincé entre deux discours d'autorité qu'il perçoit comme incohérents l'un avec l'autre, voire contradictoires. Le cas le plus fréquent est celui des enfants de parents séparés ou divorcés. Souvent, on voit apparaître des comportements turbulents à l'encontre de l'un, de l'autre, parfois en alternance, comme si l'enfant voulait rétablir ce qu'il s'imagine être la justice dans le conflit conjugal. Alors, dans ce cas précis, on pourrait alors imaginer que ces enfants aient été coincés lors de cet hommage entre les injonctions républicaines de tolérance à l'égard des caricatures de Mahomet et le ressentiment de leur famille par rapport à ces mêmes caricatures. Car rappelons-le, on peut légitimement, en tant que musulman, et sans être en aucune façon ni radicalisé ni sympathisant au terrorisme, heurté par ces caricatures, par le fait qu'elles soient diffusées. Il suffirait alors que ces enfants aient perçu une certaine blessure du côté de leur famille respective liée aux caricatures, pour se sentir le devoir d'exprimer une opinion à contre-courant, comme pour défendre ce qu'ils ressentent comme leur culture malmenée. Et ceci, bien sûr, en affirmant avec la plus grande maladresse de leur âge l'interdit de blasphème, propre à leurs valeurs familiales, qui leur sont transmises sur le mode classique et qui n'est d'ailleurs pas étranger à la religion catholique « Si tu blasphèmes, Dieu te punira, tu iras en enfer, etc. etc. » On voit bien ici la transposition maladroite et disproportionnée, encore une fois propre à leur âge, qui a donné lieu à leurs propos sur ce qui est arrivé à Samuel Paty ou ce qui arriverait à leur enseignant s'ils faisaient la même chose. Voici typiquement le genre de bêtises que peuvent dire des enfants de 10 ans quand ils sont en confiance et qu'on les invite à parler sur des sujets aussi compliqués. Il revient alors aux adultes de les aider à nuancer leur représentation, à prendre la mesure de leurs paroles et en l'occurrence d'opérer une différenciation nette entre le folklore de la punition divine et la réalité d'un meurtre d'un homme par un autre. Ce sont ces bêtises qui ont été interprétés par des services sans doute plus formés à la traque des terroristes qu'aux problématiques de l'enfance, comme, je le cite à nouveau, des signaux faibles de radicalisation. On pourra regretter que des services de protection et de sauvegarde de l'enfance, qui ont incontestablement les compétences nécessaires pour appréhender ce genre de discours infantile, n'aient pas pu être consultés pour au moins atténuer les certitudes ayant amené aux interventions policières musclées dirigées vers ces enfants. Je le répète, ces quatre enfants de 10 ans ont été extraits de bon matin de leur domicile respectif par des policiers lourdement armés et équipés, car intervenant potentiellement au domicile de dangereux islamistes radicalisés. Voilà qui nous mène tout droit vers le deuxième point que je me dois d'évoquer concernant cette histoire. Quelles peuvent être les conséquences psychologiques pour ces enfants d'une telle intervention ? Et je ne vais surprendre personne en affirmant que les effets psychologiques chez des enfants de 10 ans à qui on fait vivre de telles choses peuvent être très négatifs. Si on en croit les mêmes sources qui ont rapporté les propos des enfants, plusieurs de ces enfants ont développé des angoisses massives de type phobie scolaire et refusent de ce fait de se rendre à l'école depuis cet événement. Au moins un autre de ces enfants souffre depuis d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il s'est remis à faire pipi au lit. Le retour d'énurésie chez l'enfant peut, dans l'immense majorité des cas, être classé dans la catégorie des troubles anxieux de l'enfant. Cette régression peut être interprétée comme une volonté de l'enfant de se réfugier dans une période antérieure de son développement, caractérisée par une certaine insouciance quand son environnement actuel lui procure trop d'insécurité. Ce type de symptômes régressifs ne se manifeste pas pour un oui ou pour un non, mais souvent à la suite d'un traumatisme sévère, remettant en cause l'équilibre psycho-affectif tout entier de l'enfant, l'ensemble de sa construction, de son évolution vers l'avant, et donc, comme un réflexe de survie psychique, l'enfant va se réfugier dans le passé, dans des souvenirs de sécurité, faute d'en trouver autour de lui. Les phobies scolaires des autres enfants ne sont pas moins inquiétantes. En effet, en essuyant de telles répercussions suite à l'expression de leur point de vue à l'école, on peut craindre qu'un lien de confiance indispensable soit rompu du côté des enfants et qu'ils mettent du temps à se retisser s'ils se retissent. D'autant plus que on peut s'imaginer que le ressentiment des familles, compte tenu de ce qu'elles ont pu ressentir, ne sera probablement en rien favorisant. Et on sait bien que pour qu'un enfant soit bien à l'école, il faut qu'il y ait une adhésion entre l'école et les parents. D'autre part, le fait qu'ils aient ainsi été sanctionnés d'avoir exprimé leur point de vue peut les insécuriser sur le long terme quant à d'éventuelles prises de parole ou autres interactions les engageant dans un groupe. Il est d'ailleurs tristement ironique, quand on y pense, que ce délit de parole ait eu pour scène un atelier scolaire sur la liberté d'expression en école primaire et que le résultat puisse être une inhibition pathologique chez un individu en devenir. Bien entendu, il ne s'agit ici que de la présentation des faits possibles de tels événements chez les enfants si jeunes. Ça n'a pas valeur de pronostic établi. Et je souhaite de tout cœur que ces enfants s'en sortent avec le moins de problèmes possibles. Ceci étant dit, cela nous permet tout de même de prendre la mesure de la gravité potentielle de ce genre d'intervention quand ils impliquent des enfants. Alors forcément, en tant que psychologue, je suis particulièrement sensibilisé à la souffrance psychique des protagonistes de cette histoire. Et j'en parle avec d'autant plus de facilité que je les sais laver de tout soupçon quant à une intention terroriste. Je ne me permettrai pas de juger ou de me prononcer sur la pertinence d'intervention et de vérification de ces foyers d'un point de vue de sécurité nationale, car ce n'est pas mon métier. Pour autant, il me semble légitime de nous interroger sur un certain nombre de dysfonctionnements des instances garantes de l'intérêt supérieur des enfants. Et si cette intervention avait pour but d'extraire ces enfants, le temps d'une enquête, d'un environnement potentiellement dangereux pour leur intégrité psychique, ce qui serait l'hypothèse la plus bienveillante à leur égard. Eh bien, si c'était ça, on peut s'interroger quand même sur la pertinence d'aller chercher 4 enfants de 10 ans, de les arracher de leur lit, alors qu'ils ne sont pas déscolarisés et que de ce fait, il était chose tout à fait aisée de les isoler sans heurts ni fracas, le temps que soient effectuées les vérifications nécessaires à leur domicile. Les isoler en les maintenant à l'école, tout simplement, comme c'est de pratique classique dans ce genre de situation, quand il est question de protéger l'enfant d'un environnement familial problématique. Le fait que ce ne se soit pas passé comme ça constitue tout de même une question pour moi qui reste encore sans réponse. Voilà pour ce prêt-à-penser. Si comme Frédéric, vous souhaitez me suggérer un sujet à traiter, vous pouvez le faire en passant par la boîte mail de Radio G ou par Facebook via la page de Radio G ou comme Frédéric, via ma page personnelle Nicolas Andrades, psychologue, sur Facebook. Passez une bonne quinzaine, prenez soin de vous et à dans 15 jours pour un nouveau prêt-à-penser dans l'oreille curieuse.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.
Merci beaucoup Nicolas de poser des mots pesés sur ce qui nous traverse et nous parvient. Le prochain prêt-à-penser, si vous avez envie de noter la date dans votre agenda, ce sera le 9 décembre. Waouh, je suis hyper impressionnée, on va rendre l'antenne à l'heure et c'est malheureusement exceptionnel, je suis trop souvent en retard. Alors merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité avec les podcasts sur la page de l'Oreille Curieuse sur le www.radio-g.fr. Demain, on se retrouve à nouveau en direct et à 18h10. Dans l'émission, il y aura Margot et la chronique d'Étoiles plein les yeux, un reportage sur le dispositif du service civique et une autre surprise sur laquelle je vais travailler cette nuit. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit encourageant ou si vous avez envie de nous décourager, mais ça ne prendra pas sur nous. Ça se passe sur la boîte mail de Radio G, prog.radio-g@gmail.com, ou bien sur les réseaux sociaux de Radio G. À 19h, dans 10 minutes, vous retrouvez Bande Geek Mafia, le mag Infoculture. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.
Les comics chez Dacoui.
La discothèque. On était chez Cosy. La discothèque. On était chez Cosy.
feu.